Ah, oui.
Ça va mieux,
Jean-François Mignard,
Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie. Alors ce soir avec Jean-François Mignard, nous vous proposons un Ça va mieux spécial États-Unis à la veille de l'élection présidentielle de ce pays, une élection qui aura lieu le 5 novembre, mais je crois qu'il y a des pays, des États qui ont déjà commencé à voter, vous nous le préciserez. Il est bien évident que cette élection aura un impact sur le monde entier, donc sur l'Europe, c'est-à-dire aussi sur nous tous Français. Les personnalités des candidats sont radicalement différentes et c'est peu de le dire. La politique étrangère de ce pays dominant est un sujet de forte polarisation entre démocrates et républicains. Et donc, quel que soit le vainqueur, nos relations avec l'Amérique en sont affectées. Pour évoquer cette question, pour parler de ces deux visions du monde qui s'affrontent, celle de Kamala Harris et celle de Donald Trump, avec Jean-François Mignard, nous accueillons Scott Stroud. Pardon pour ma prononciation, et Suzette Tanis-Plant. Ils sont tous les deux membres du Parti démocrate. J'imagine que vous le comprendrez à leur positionnement. Bonjour Suzette, bonjour Scott.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous avoir rejoint au micro d'Esprit Occitanie pour nous éclairer sur cet événement si important pour votre pays. Alors nous allons balayer un peu... Pour la clarté des échanges, je vous propose d'aborder successivement six problématiques, je vous les redonne, immigration, économie, sociale, politique étrangère, la démocratie, bien sûr, peut-être en danger, et l'environnement, même si elles sont toutes liées, si elles se conditionnent entre elles, on va les prendre successivement. Sachant que les thèmes électoraux, les mots qui semblent revenir le plus souvent dans cette campagne sont, me semble-t-il, l'immigration, la Chine et l'avortement. Mais on va commencer par un sujet sur lequel les candidats demeurent finalement assez discrets, comme on dira à Toulouse, d'une discrétion de violette, c'est l'économie, mais surtout, en termes d'économie, le déficit public qui me paraît être aujourd'hui, j'ai bien pris mes notes, de 1,830 milliards, c'est ça, qui me paraît complètement hors de contrôle aujourd'hui, qui représente 6,3% du PIB. Et comme personne ne veut augmenter les impôts et réduire les dépenses, que ce soit Harris ou Trump, le déficit devrait continuer à croître sur cette question qui veut commencer. Scott ?
Oui, si vous voulez bien. C'est vrai que historiquement, les républicains parlaient beaucoup du déficit public et les républicains et les démocrates s'accusaient mutuellement de faire des dégâts. On disait que les démocrates qui se défendaient en disant « Bon, on propose des petits projets, mais bon, les petits projets s'alignaient, ça faisait creuser le déficit. » Depuis le président Reagan... le déficit se creuse surtout à cause des impôts. On coupe les impôts pour certaines personnes, pour des corporations assez riches ou les hommes riches. Donc il y a des baisses d'impôts, mais les dépenses continuent à croître. Donc c'est vrai que depuis 1981, nous, démocrates, on dirait que c'est plutôt les républicains qui creusent le déficit, mais nous sommes coupables aussi. Alors, on ne parle pas du déficit public trop aux États-Unis. Tout ce qu'on se dit en ce moment, c'est que si Trump est élu, le déficit va se creuser encore de 7 milliards et demi, il me semble. Et si Harris est élu avec ses projets de loi, ses idées, ça sera que la moitié.
Bon, voilà. Donc.
Oui, les mauvaises langues disent, que les Américains peuvent creuser le déficit puisqu'ils tirent des chèques que les autres n'ont, en fait, au niveau de l'économie mondiale. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire.
Oui, parce que c'est quand même le dollar hein, qui finance tout ça. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. On peut augmenter. Mais jusqu'où est-ce qu'on risque pas? D'abord, il y a un risque de résurgence de l'inflation, j'imagine. Hein, surtout avec Trump qui veut lui baisser les impôts et augmenter les droits de douane. Donc, Suzette.
Effectivement. Donc, le sujet au plan donc de la campagne n'est pas évoqué, ou très peu, parce que c'est une question à laquelle ni l'un ni l'autre veut être confronté, parce qu'il aura peut-être amené le débat vers les impôts, et ça, c'est un sujet qu'on ne veut pas...
Que personne ne veut aborder.
Sauf pour Trump, qui fait des promesses donc de réduire les impôts pour les
notamment l'impôt sur les sociétés, puisque je crois qu'il est à 23%, ils veulent le baisser à 15%.
Oui. Voilà.
Alors que Kamala veut le remonter à 28%.
Voilà, effectivement. Donc, il y a de ce point de vue. Donc, pour éviter de parler trop des impôts, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous savons que Trump veut, on ne parle pas d'impôts, mais de questions avec la Chine, et donc les tarifs pour essayer, lui, il croit que ça va donc réduire le déficit, parce que ça va nous emmener tellement d'argent qu'on ne va pas savoir quoi en faire avec tout cet argent que nous allons avoir.
On a déjà entendu ça sans aller aux États-Unis, donc Jean-François, en France.
Je n'osais pas avoir votre malveillance.
Voilà, il semble c'est un discours. Monsieur Macron, avec sa politique de l'offre et sa théorie du ruissellement.
On a entendu le ruissellement.
Voilà, oui. Nous a amené dans
on
une.
On a entendu le bruit
impasse.
Du ruissellement, ça a forcément.
Alors,
effets,
donc, chez vous, quelle est la position des chefs d'entreprise et des grandes entreprises? On a entendu d'ailleurs certains milliardaires américains dire ce qu'on n'a jamais entendu en France, imposez-nous parce qu'on ne paye pas assez d'impôts. C'est
oui,
quelque peu paradoxal.
Bon, mais des milliardaires qui votent plutôt démocrates. Donc, oui. C'est vrai que des CEO style Warren Buffett, lui, depuis longtemps, il dit cela.
On n'a pas l'habitude.
Mais côté...
Oui, M. Pinault, chez nous, il n'a jamais dit « imposez-moi, imposez-moi hein, ».
Non, mais bon, mais ce qui est important à souligner, c'est que normalement, les hommes d'affaires votent républicains depuis toujours. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils voient que ce que propose Trump pour l'économie, les tarifs, etc., ils savent que ça va mal finir. Donc, ce qui est important à souligner, c'est que les sociétés dont on parle souvent dans le magazine Forbes, donc les 100 premiers, les sociétés, il n'y a aucun président de société qui ont contribué à la campagne de Trump. Aucun. Et même Wall Street, qui est plutôt républicain depuis toujours, ils sont plutôt Kamala maintenant. Des choses qu'on croyait jamais, c'est impossible. Il y a 4 ans, 8 ans. Et d'ailleurs, on va en parler encore, c'est qu'il y a plein de républicains qui ont toujours voté républicains, qui cette année, ils ont dit que bon, ils peuvent plus avec Trump et ils vont la ligne rouge et voter démocrate.
On a même vu les républicains qui avaient affrété un autobus et qui parcouraient certains États pour porter la bonne parole. C'est quand même assez surprenant.
C'est extraordinaire, mais c'est une bonne chose.
Oui, du point de vue démocrate, c'est une bonne chose, j'en suis certain. Est-ce que les chefs d'entreprise, qu'est-ce qui les inquiète? C'est l'irrationalité de Trump?
Non, moi personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont peur de ce qui va se passer au niveau économique. Et est-ce que, en fait, ces idées je peux donc dire farfelus, vont pas nous amener à une crise économique, un grand donc désastre, parce que bon, il parle de donc la Chine, mais aussi il parle de le fait qu'il veut donc extrader les immigrés. Donc, la question, c'est qui va travailler ?
Alors, ça, oui, ça, c'est la grande question qui inquiète le patronat, je crois.
Oui, voilà. Oui, oui.
Si on renvoie les immigrés il faut quand même que les usines tournent. On rapatrie des usines, on veut l'indépendance. C'est le même problème qui se pose chez nous. Hein. On peut faire le parallèle. Hein.
Il faut qu'ils arrêtent de manger des chats et des chiens. C'est,
c'est vrai que les immigrés mangent des chats et des chiens, oui.
Voilà. Et bon, ce sont les industries, mais c'est aussi tout qui est restauration dans toutes les grandes villes, que ça soit New York ou que ça soit Miami, etc.
L'économie,
fonctionne donc avec les immigrés. Après, tout ce qui est services à domicile, ce sont des immigrés. La question pour donc les gens, que ça soit des moyennes entreprises ou des grandes entreprises, c'est qui va faire le travail, parce que nous sommes presque à plein emploi. Donc, qui reste?
Ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, le bilan de Biden est très bon. Et donc, si Trump arrive au pouvoir, ça ne peut que se dégrader. Tout le monde le sait, non?
Tout le monde ne se rend pas compte, non. Bon, Donald Trump, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il sait vendre un produit. Il c'est un très, très bon vendeur. Les gens l'écoutent. Donc, à force de dire que l'économie va mal, il y a plein de gens qui le croient.
C'est la méthode Coué, comme l'on dit chez nous.
Donc, et puis, les gens ne regardent plus les chiffres. Tout devient émotion, c'est émotionnel. Donc, comment on se sent? Donc, on ne regarde pas le taux de chômage, bon, très bas. On ne regarde pas le vrai taux d'inflation, qui est à 2,5%. Et quand on dit aux Américains l'Amérique c'est l'envie du monde, ou c'est presque le cas, ils ne croient pas, parce que il y a deux problèmes majeurs pour l'Américain moyen. C'est le coût des aliments. Quand ils vont au supermarché, ça coûte de plus en plus cher. Et puis ils se disent, ah, bon, quand Trump était président, ça allait beaucoup mieux côté prix.
J'ai entendu ça ce matin sur le journal de France Culture, hein, mais où voilà. Effectivement, il y a...
Et le prix du logement. Et donc, mais le problème, c'est qu'il y a le Covid qui est passé par là, et ça a eu un impact sûr et certain sur l'économie. Et c'est même miraculeux que l'économie américaine a rebondi aussi vite depuis 2021.
Enfin, il y a l'IRA quand même et le CHIPS Act hein, qui ont bien dopé l'économie américaine, j'imagine, non ? Suzette ?
Oui. Donc, il y a eu donc, des passages, donc, des actes donc, de gouvernement pour essayer donc, de remonter l'économie. Mais je crois que ces chiffres, que ce soit l'économie, que ce soit les questions d'immigration, etc., nous ne sommes plus du tout dans un cadre de, comme a dit Scott, de quelque chose de rationnel. Donc, comment le problème, je crois, de Harris et de toute la campagne, c'est comment il faut, en fait, combattre tous ces mensonges qui circulent donc, en permanence et que les gens ne veulent plus, comme dit Scott, regarder donc, les vrais chiffres. Et c'est une tâche extrêmement dure parce que c'est, je dirais, un peu suite à un homme donc demande de Trump qui est Steve Bannon qui a préconisé donc cette façon de faire, c'est-à-dire de circuler un maximum de mensonges et que finalement à la fin les gens ne savent plus où ils en sont. Donc c'est très difficile d'avoir un débat avec ces gens parce que c'est juste donc une vague de mensonges, et la personne en face qui est dans, dans la réalité ne sait plus par quel bout il faut prendre le débat ou la discussion. Et tout ça est fait exprès pour avoir donc un monde un peu chaotique. Parce que dans un monde chaotique, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est exactement ce qu'il fait Trump.
Alors, au risque de bousculer un peu le magnifique architecture de Jacques Lavergne pour l'émission, je vais réagir un peu comme veut le français. Voilà, l'Amérique, alors, mais là je parle d'Amérique, mais nous on est quand même pas complètement à côté, n'est pas en train de payer une certaine manière de faire de la politique? C'est-à-dire, vu de la France, les élections américaines, c'est un gigantesque spectacle. C'est vécu, je ne sais pas si c'est vécu comme ça aux États-Unis, mais les meetings, les animaux fétiches, les one-man shows, les artistes, etc., etc. On est tout sauf dans le rationnel, là. Je veux dire, on est dans le...
Il y a la surenchère, il y a les insultes aussi, puisqu'on s'insulte quand même.
Hein, et on se dit, alors moi je vais vous dire, moi je vais dire mes amis américains, moi ça fait longtemps que je suis un peu surpris de se dire, mais le show à l'américaine, la parade, etc., etc., pour le coup, là, on est tombé sur quelqu'un qui sait jouer de ce genre de truc-là. Pour le coup, de l'émotionnel, de la peste émotionnelle, comme disent les sociologues, le truc où, effectivement, à un moment donné, il nous retourne la tête. Bon, mais c'est plus par quel bout. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi, d'une certaine manière, le bout d'une certaine façon, comme ça, d'une dérive de la démocratie? Je sais pas si vous le...
Je ne sais pas si c'est une dérive de la démocratie, mais c'est vrai qu'on vend de la politique comme on vend des produits.
Oui. Donc, il faut des gens pour les acheter quand même.
Il y a des Américains qui achètent
peu cher de ce genre de choses.
Donc, quand on regarde... je suis un peu d'accord avec vous.
Oui, c'est-à-dire qu'il
y a, quand on voit les spots de pub, parce que ce sont des spots de pub, à la télé, c'est vraiment pour vendre des produits.
Veut dire que les gens peuvent tout gober qui n'ont plus d'esprit critique?
On a parfois l'impression que les gens ne réfléchissent plus. Donc ça devient, comme on a déjà dit, une affaire de cœur, affaire d'émotion, parfois on a l'impression que les gens ne réfléchissent pas trop. Et puis quand on ajoute à cela, pas uniquement les spots publicitaires à la télé, mais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, alors ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est effarant. Et parfois c'est même pas effarant, c'est simplement... Des trucs tout bêtes. Donc, j'ai des amis qui votent Trump et je vois ça dans les réseaux sociaux. Et on voit, on veut se moquer, ils veulent se moquer de l'économie de Biden. Donc, ils appellent ça Bidenomics. Et c'est très simple. Ils mettent en haut Bidenomics, ils font une liste de courses, ils donnent le prix des œufs il y a 8 ans, le prix des œufs maintenant. Tout dans la liste est plus cher. Et donc, aussi, vous voyez, Bidenomics, c'est une catastrophe.
Suzanne.
Oui.
Suzette, pardon.
Je suis tout à fait d'accord, mais il faut se rappeler quand même qu'on est en train de parler d'une certaine partie de la population, que tout le monde ne gobe pas Trump. Et Dieu merci. Et que on a vu, donc il y a une historienne qui est en ce moment très connue et très écoutée aux États-Unis, Heather Cox Richardson, et elle a fait une analyse que j'ai trouvée très intéressante. Elle a dit qu'aux États-Unis, il y a 33% de la population qui désire donc un homme au pouvoir qui est donc un dur.
C'est un tiers.
Donc elle dit que ce n'est pas de nos jours. a dit que c'est une statistique
qui a toujours été.
Donc, on a à peu près 30% de la population. Après, elle nous demande d'ajouter à peu près 10% pour les sexistes, les racistes, etc. Donc, on est en train de parler de 40% de la population. Et ce, depuis toujours. Donc, elle dit que ça, c'est un fait statistique stable. Donc, avec Trump, peut-être nous avons donc une augmentation dans ce pourcentage. Oui. Mais elle affirme que la majorité des gens ne gobent pas tout ça. Donc, le problème, c'est que cette différence, voilà, on est en train de jouer avec très peu de la...
À la marge.
Voilà, avec la marge. Donc, la question n'est pas simplement que Trump, qu'il y a quand même toute une tendance historique et que c'est une réalité et que, donc, il faut travailler avec, et surtout, toutes les campagnes sont donc axées sur le parti qui est donc pas pur dur démocrate. Mais donc, je crois qu'il faut effectivement dire est-ce que les Américains n'y pensent plus, etc. Ils gobent tout. Mais non. Donc, ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que vous voyez tout ce qu'il y a donc, à la télévision, etc. Mais derrière. Il faut voir les nombres de gens qui sont en train de faire de porte à porte, ils passent des heures et des heures à essayer de engager donc une conversation pour inciter les gens de voter. S'ils ne sont pas en train de faire de porte à porte, ils sont en train de passer des coups de fil. Et il y a une armée de gens qui sont à la tâche.
Dans les deux camps, j'imagine.
Donc, il paraît
ils
que c'est
pas... Ils sont un peu plus de côté des démocrates pour faire ça.
C'est les démocrates qui font ça
Maintenant, c'est plutôt les démocrates.
Ouais.
Alors ce que je vois et ce qu'on lit, et on peut encore citer Heather Cox Richardson. Alors, la campagne de Trump n'a pas autant d'argent que ça, en fait. Et l'argent, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Et donc, ils n'ont pas budgété, ils n'ont pas mis en place les équipes en place pour faire la porte-à-porte. Et maintenant, ils ont fait comme Trump. C'est-à-dire, ils ont pas subventionné, ils ont délégué ça à une autre entreprise.
Ils ont sous-traité.
Ils ont sous-traité ce travail essentiel. Et les gens qui font ce travail sont payés s'ils frappent à la porte de quelqu'un ou pas. Et en fait, l'équipe de Trump n'est pas en train de gagner cette guerre-là.
Et comment vous expliquez qu'un Elon Musk se range derrière Trump, qui s'y range, mais là, ça, voilà, résolument, comme dit Jean-François, ça va au-delà.
Oui, il fait la campagne.
Véritablement une campagne très active, il fait le show lui aussi.
Oui,
non, mais c'est justement parce que Elon Musk a compris que la campagne de Trump n'a pas fait le travail sur le terrain qu'il fallait.
Ça prend pas,
quoi. Et donc il se dit, OK, l'État de Pennsylvanie, c'est un État clé. Donc, moi, Elon Musk, je vais mettre tout en œuvre pour faire en sorte que la Pennsylvanie vote Trump.
Il serait pas plutôt, on ne l'aurait pas plutôt vu chez les démocrates, Musk, non?
Non. C'est-à-dire, il a quand même donc, des rêves de folie, je
oui,
dirais.
Oui, c'est clair, oui.
Voilà. Et le nombre de personnes qu'il emploie pour... Donc, partir sur Mars est considérable. Donc, ce projet demande donc des fonds sans fin.
Colosson.
Colosson. Et donc, il ne veut pas être imposé, lui, parce qu'il veut mettre tout cet argent dans ce projet. Donc, lui, dans un peu sa folie, il ne pense quand même qu'à son projet et il veut aboutir, en fait, avec son projet. Et la personne qui va le permettre, c'est Trump. Aussi, donc il faut comprendre que tous les contrats qui sont passés, parce que c'est le NASA.
Oui, c'est beaucoup de contrats avec l'État.
Oui. Donc là, ça sera des contrats sans avoir ni des résultats, ni des responsabilités, rien de tout. Il va avoir la main libre pour.
Donc c'est un intérêt purement mercantile.
À mon avis.
Vous êtes inquiet d'éventuelles influences extérieures? Alors, quand on dit ça, on pense plus sûr à la Russie. On vient de le voir. Oui, par hasard.
Quelle malveillance.
On vient de le voir avec la Moldavie. Vous pensez qu'ils vont tenter par tous les moyens de peser sur l'élection pour faire arriver Trump au pouvoir?
Bon, je crois que depuis 2016, ils sont à l'œuvre. C'est systématique.
Ça a un impact?
En fait, on ne le sait pas.
C'est discret, surtout.
C'est assez discret. mais normalement, l'État fédéral est au courant et veille que ça ne se passe pas comme il y a 8 ans. Mais on sait que ça se fait.
L'immigration, elle vient essentiellement par le Mexique ou elle arrive ailleurs? Par ailleurs, ce sont des remontées de gens qui sont issus de l'Amérique du Sud.
Et pas que. En fait, maintenant, on sait qu'il y a des Chinois qui passent par le Mexique pour essayer d'arriver aux États-Unis.
Les Chinois arrivent aussi par le Mexique.
Oui. C'est-à-dire, il y a, je crois, une tendance un peu naturelle, comme l'Afrique monte vers l'Europe. Et c'est ce qui a été très donc médiatique, donc le frontière, parce que c'était là où effectivement on voyait donc des problèmes avec des gens vraiment en difficulté qui essayaient donc de traverser, parce que c'est la voie par laquelle on peut entrer un peu plus facilement. Mais je ne peux pas dire, je n'ai pas assez des chiffres
Kamala
pour dire
Harris,
que c'est...
qui était en charge de ce problème pendant le mandat de Biden, a reconnu, je crois que c'était hier ou peut-être avant-hier, a reconnu qu'elle n'avait pas été des plus performantes sur ce sujet. Alors j'imagine que c'est plutôt une posture électorale.
C'est une fleur de rhétorique politique.
Oui, je crois que c'est une posture.
Oui.
Parce que ce qu'elle dit aussi, et ce qui est vrai, c'est que il fallait passer une loi sur l'immigration et ça faisait des... Combien d'années? 12 ans, 16 ans, longtemps qu'on essaie de passer une loi digne de ce nom qui donne de l'argent pas uniquement pour arrêter le flux. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est aussi mettre des agents en place pour traiter les problèmes, embaucher des juges pour traiter les problèmes. Et il fallait de l'argent pour ça. Donc Biden, dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, bon, ça faisait 3 ans qu'il travaillait là-dessus et qu'il avait l'accord des républicains. Donc c'était... Ils étaient d'accord, ils allaient le signer, Biden allait le signer, sauf que l'immigration, c'est la question qui fâche pour Trump, et il s'est dit, mais c'est ça, mon cheval de bataille pour cette campagne. Et il a téléphoné aux hommes politiques républicains, au Congrès, ils ont dit non, stop. Ça, on ne peut pas le faire, parce que si vous faites passer cette loi-là, qu'est-ce que je vais faire pendant la campagne? Et ils ont été d'accord. Et donc, c'est Kamala Harris qui essaie de rappeler ça quand elle fait campagne. Et parfois, les gens l'écoutent, et parfois, non.
Plus largement, alors que ce soit pour l'immigration, mais je pense au Moyen-Orient aussi, on a l'impression, quand on lit la presse française, pour le coup, quand même une des difficultés aujourd'hui de Kamala Harris, c'est à la fois de se démarquer et de rester dans l'héritage de Biden. Parce que, c'est une mission extrêmement paradoxale qu'elle a assumée, c'est-à-dire à la fois conserver le potentiel électoral de Biden et en même temps s'inscrire un petit peu en rupture parce qu'elle y est quand même allée parce que Biden ne pouvait pas y aller d'une certaine manière.
Est-ce qu'on peut parler un peu de côté social? Vous avez dit aujourd'hui le chômage, on est presque au plein emploi, donc ça c'est quelque chose d'acquis. Sur le plan de la santé, aujourd'hui, le droit de la santé, tout ce qui a été mis en place par les démocrates, c'est bien passé dans les mœurs aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'ont plus d'assurance médicale. Ça se compte sur donc un peu moins de 10%, je crois, avoir lu ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est exact. Mais il y a l'autre problème qui agite tout le monde, c'est l'avortement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'avortement? Parce qu'on se jette...
Pas de l'idéologie.
Voilà, est-ce que aujourd'hui, bien sûr, Kamala Harris prône l'avortement et le respect du droit des femmes, ce qui n'est pas du tout le cas de Trump. Enfin, on sait comment il les traite et on sait comment il en parle. Est-ce que ça va être vraiment quelque chose qui va être clivant? Est-ce que ça va être là un point dur pour les électeurs?
Oui, c'est un point clivant, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut aborder cette question, je crois, d'un autre point de vue. Et donc, c'est la religion. Et donc, aux États-Unis, la religion est très différente, est pratiquée d'une façon très différente qu'ici en France. Donc, en France, on a la religion donc catholique, mais votre approche de Bible, etc., est plutôt donc une histoire qui nous raconte des histoires pour qu'on puisse donc discuter les valeurs qu'il faut avoir et des valeurs ou des comportements qu'il ne faut pas avoir parce que tous les personnages ne sont pas beaux dans la Bible, mais il sert donc à nous montrer que c'est pas comme ça qu'il faut.
C'est des paraboles, quoi.
Oui, voilà. Donc, ce sont des paraboles. Effectivement. Aux États-Unis, nous avons quand même une approche donc évangélique qui va donc prendre tout pour content. Et donc, ces gens-là vont dire non, la vie, c'est la vie, donc pas d'avortement. Ceci dit, on peut parler peine de mort et on a autre chose. Mais donc, on a deux sujets et je crois que c'est... la religion joue un rôle important et que dans ces religions, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est l'homme qui est à la tête de l'Église, les femmes n'ont pas une voix. Et donc, ils souhaitent avoir une société basée sur ce modèle. Donc, l'avortement fait partie de toute cette approche.
Les républicains sont beaucoup plus religieux que les démocrates?
Non.
Ils ne sont pas pareils, visiblement.
Non, non. C'est une question
chacun
de...
Chacun a sa lecture de...
Pour moi, c'est une question de politique. Bon, d'abord, il ne faut pas dire qu'aux États-Unis, la plupart des gens lisent la Bible comme si c'était tout est...
Il fallait appliquer directement.
Non, non, du tout. Donc, c'est peut-être... si on prend le pourcentage des chrétiens aux États-Unis, on va dire que c'est à peu près 65% de la population. Bon, il y a peut-être plus qui disent « oui, je suis chrétien », mais qui ne sont pas vraiment pratiquants. Et sur ces 65%, il y a à peu près 30% qui sont des purs et durs, qui vont dire oh, « la Bible, j'accepte tout comme la vérité, ce qui est écrit dans la Genèse, c'est comme ça.
C'est les mêmes 30% que ceux qu'évoquait Suzette tout à l'heure.
Ça, je ne sais pas. Si
peut-être
c'est
on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres.
Oui, je ouais. ne sais pas si une étude sur, en fait, de ce point de vue, mais on arrive sur le même pourcentage.
Mais ce qui est important, c'est que ça soit l'avortement ou tout ce qui est politique entre les homosexuels, etc. Donc tout ça, ça va dans le même package. Et donc cette minorité, ça fait des décennies qu'ils travaillent très dur à mettre en place ce qu'ils veulent parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison. Donc si on a raison, on fait tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. Parce que
c'est le bien et le mal, ça.
C'est le bien et le mal, c'est le vœu de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà.
C'est ce qu'on entend aussi, on va parler tout à l'heure de politique étrangère, c'est un peu ce qu'on entend au Moyen-Orient aussi.
Oui, mais bon, tout ce que je veux dire pour Trump, il n'est pas du tout religieux, mais il est ravi que ces mêmes chrétiens disent que c'est Dieu qui l'a protégé le jour de l'assassinat. Et du coup, il a fait faire une Bible qui vend à $60 avec la date de cette tentative d'assassinat écrite sur la couverture de la Bible.
Oui, ça va quand même extrêmement loin, effectivement.
Rentabiliser les miracles, c'est vieux comme le monde.
Exactement. Oui, voilà, en effet. Donc c'est ça. Donc, la question de l'avortement, c'est simplement cette minorité qui travaille depuis si longtemps parce qu'ils croient dur comme fer que c'est Dieu qui le veut.
Mais la Cour suprême qui a été noyautée, si je puis dire, par toi, est-ce qu'elle a encore une crédibilité ?
Remaniée,
on va dire, oui, avec des nominations à sa botte. Mais il y a quand même, il y a eu de grands juges dans le passé à la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est plutôt la clientèle de Trump. Il y a placé des gens qui l'ont bien servi. Mais est-ce qu'elle a encore une légitimité, à votre avis ? Politique, certainement pas. Question difficile, oui, Scott.
Oui, bon, je crois que ça ajoute au problème, et puis pas uniquement aux États-Unis, bon, un peu partout, la démocratie est en péril parce que les gens ne font plus confiance aux hommes politiques et donc, et par la suite, au gouvernement. Donc si on ne peut pas se fier, si on n'a plus de confiance à la personne qui occupe la Maison Blanche, et si on n'a plus confiance au juge de la Cour suprême, c'est sûr que c'est déstabilisant. Et en fait, c'est exactement ça que Trump veut, parce qu'il faut, dans ce cas-là, un homme fort pour sauver le pays.
Et donc, c'est l'homme fort.
Voilà. Ouais.
La Chine, dans tout ça, parler un peu de... Parce que la Chine, c'est quand même le grand rival, c'est comme le grand risque. Il y a Taïwan, il y a les détroits, il y a l'approvisionnement. La Chine détient à peu près toutes les terres rares, pas en totalité, il y en a pas mal en Amérique du Sud, mais enfin, elle détient les terres rares sans lesquelles l'Amérique pourrait pas fonctionner, et le monde entier d'ailleurs aussi, mais l'Amérique. Les F-35 américains, s'il n'y avait pas de terres rares qui viennent de Chine, ils ne voleraient pas. Comment on se débrouille avec tout ça ? Qui veut répondre à Scott ?
C'est une
question compliquée.
C'est une question qui n'a pas de réponse.
Je dirais que c'est pas une question qui est vraiment soulevée. Donc
est-ce qu'il n'y a pas un consensus entre les républicains et les démocrates sur l'opposition, la guerre économique avec la Chine, mais qui pourrait un jour devenir une guerre qui ne soit totale ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce conflit larvé avec la Chine ? Est-ce qu'un jour, on va s'échanger des missiles par-dessus nos têtes ?
Peut-être pas des missiles, mais c'est sûr que quand on voit des rapports de la marine américaine, quand ils vont là-bas, ils ont un peu la trouille. Parce que donc, il y a les avions de chasse chinois qui les narguent. Et maintenant, ils ont une marine chinoise vraiment très importante. Et,
donc, vous croyez qu'ils provoquent, ils cherchent l'incident ? Ils provoquent ?
Pas un incident, mais ils ne vont pas se laisser faire. C'est vraiment pour montrer leurs muscles.
Pour s'affirmer. Pour dire, nous sommes là et on ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez faire.
Biden avait été très clair sur Taïwan en disant, s'il se passe quelque chose, on interviendra. Je ne suis pas certain que Kamala Harris a la même position. En tout cas, elle ne l'a pas exprimé en ces termes, ou pas aussi directement.
Oui, mais bon, je crois que c'est un peu ça, cette idée que c'est une femme, donc elle ne va pas être aussi forte.
Ça, c'est pas, ça reste à prouver hein, là-dessus.
Oui, mais on pourrait, en dehors de la dimension du genre, comme on dit ici, on pourrait se dire, après tout, c'est les lignes rouges d'Obama qui ont été franchies sans que c'est réagi, en Afghanistan, par exemple. Voilà. Est-ce que y a ce débat, il y est ? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, quelqu'un comme Obama, il a laissé faire un certain nombre de choses, alors qu'il avait dit que c'était...
Notamment en Syrie. Hein,
oui, alors je passe au Moyen-Orient, voilà. etc. Parce que bon, moi, ce qui m'a étonné, ce que j'ai remarqué, c'est quand même on a fait donner du Obama, quoi, le retour depuis quelques jours. Là, maintenant, il est revenu, et on voit bien qu'il et j'ai l'impression, mais alors bon, vu de loin, là aussi, qu'il y a une espèce de jeu de miroir, un peu de stratégie des spin doctors pour qu'on aille récupérer l'électorat d'Obama sur la figure de Kamala Harris, toujours avec les minorités, etc., etc. Et on pourrait se dire, après tout, est-ce que c'est aussi un peu le reproche qui sont faits aux démocrates, c'est de dire c'est un peu des faibles quoi, ils sont les républicains là, bam, Reagan, tout ça c'est du dur. Je provoque un petit peu, mais
je sais pas. Moi je ne suis pas convaincu.
Oui.
C'est que par exemple, les États-Unis, l'armée américaine était en Afghanistan pendant très longtemps et tout le monde se disait ok. Ça ne peut pas continuer, il faut retirer l'armée. Et en fait, c'était Trump qui a pris la décision de le retirer. Et puis, c'était à Biden de le faire. Et puis, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et bien sûr, Trump a dit, moi, en tant que président, j'aurais
fait autrement.
J'aurais fait oui. mieux.
Oui.
Oui. Et donc, c'est sûr que sur la politique étrangère... Je ne peux pas parler au nom d'Obama, mais c'est sûr que la ligne rouge dont il a parlé en Syrie, c'est un grand regret. Je ne sais pas si lui le regrette, mais nous,
on le regrette.
Donc, Kamala Harris, quand elle parle de l'Ukraine, quand elle parle souvent de la démocratie. Donc, si on se dit que elle est claire, elle veut défendre l'Ukraine. Donc, et parce qu'il y a une guerre en Ukraine.
Ça veut dire qu'elle est capable de donner les autorisations pour que les Ukrainiens se servent de...
Pour les frappes profondes.
Des frappes sur le territoire russe.
Ça, je n'y crois pas du tout.
Parce que l'Ukraine n'est pas très bien aujourd'hui. Ils sont un peuple courageux qui s'est saigné. Ils sont un peu au bout du bout aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont exsangues économiquement en termes de personnel.
Ils sont épuisés.
Poutine a fait tuer, je crois, 700 000. J'ai entendu ça ce matin, à peu près 700 000. De Russes, hein. Il n'en a strictement rien à faire, c'est de la chair à canon. Ils ont payé très cher pour avoir eu, pas une grande victoire, mais aujourd'hui, ils avancent quand même, ils avancent. Les Ukrainiens sont épuisés, on ne leur a pas fourni, et là l'Europe est quand même assez responsable. La France n'a pas tenu ses engagements, les Allemands à peu près, mais pas la France. On ne leur a pas fourni les munitions qu'on devait leur fournir parce qu'on est absolument incapable. On est incapable de les leur fournir. Et les États-Unis ne leur ont pas fourni ni les avions, ni les autorisations nécessaires pour se servir de matériel très performant.
Donc, qu'est-ce qui va se passer si Trump arrive? Lui, il a dit qu'il allait régler ça en deux jours. Mais,
Ah oui, lui, il va.
Voilà.
Oui,
quel est l'avenir des Ukrainiens pour, à votre sens?
Bon, Harris a dit que si Trump gagne, donc elle a expliqué que quand Trump dit que bon, ça sera terminé en 24 heures, ça veut dire c'est l'abandon. C'est. On donne ce qu'il veut à Poutine. Donc, les territoires qu'il occupe, bon, on va les laisser comme ça. Donc, il y a des personnes qui croient que si on donnait davantage d'armes à l'Ukraine pour frapper les bases en Russie, vont se dire les bases duquel les fusées partent.
Oui.
Bon, ça forcerait Poutine à la table des négociations et négocier comme il faut. Parce que bon, tout le monde est d'accord qu'il faut négocier, mais ce n'est pas en disant en 24 heures on arrête que ça va bien se terminer pour les Ukrainiens, parce qu'on sait ce qui se passera par la suite. On sait que ça donnera, d'ici 2 ans, 3 ans, ça donnera aux Russes le temps de refaire leur armée, leurs usines, etc. Et 2 ans, 3 ans d'ici, ils recommenceront. Et puis ensuite, la Pologne... Bon, Poutine, il est très clair. Il veut rétablir la Russie comme avant.
Et il sait que de toute façon, s'il reculait aujourd'hui, bah, il mettrait sa vie en danger. Il y a des gens qui sont quand même très... Enfin, tu connais bien le pays, Jean-François. Ils sont comme, il a des opposants, ou au moins des gens qui, dans son camp, sont infiniment plus durs que lui.
Oui, et qui, le jour où il aura le moindre signe de faiblesse, l'assassineront dans les couloirs du Kremlin, dans la seconde qui suit. C'est clair.
Alors, on a un autre Poutine, mais un peu plus au sud, c'est M. Netanyahou aujourd'hui, parce qu'il a à peu près, il agit comme Poutine aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le mépris complet des hommes et des femmes. On continue à bombarder, on continue à massacrer, Gaza n'a plus de quoi manger, Gaza n'a plus de quoi se soigner, on a tout rasé, et puis on attaque le Liban aujourd'hui. À peu près, hein, je vois pas trop de différence... entre les deux politiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que parce que c'est les Américains qui ont la clé. Si, comme l'a dit le président Macron, parce qu'il dit beaucoup de bêtises, mais là, ces derniers temps, au moins sur ce dossier-là, il a dit des choses intéressantes. Si on supprime l'approvisionnement en armes d'Israël, si les États-Unis suppriment l'approvisionnement en armes d'Israël, est-ce que ce n'est pas une manière d'arrêter le conflit?
Ça se peut, mais là, pour le moment, personne ne veut trop traiter le sujet à cause de la campagne donc, pour les élections présidentielles, parce qu'il y a donc une grande population donc, juive aux États-Unis et on ne peut pas donc...
dont certains quand même disent assez franchement qu'ils sont pour une solution pour les deux États et qu'ils ne sont pas jusqu'au boutiste, ils n'ont pas le couteau entre les dents.
Effectivement, mais de là de dire qu'on va arrêter donc de les fournir en armes, on n'y est pas. Donc, on a une idée assez claire avec Trump sur un certain nombre de sujets, parce qu'il s'exprime. Lui dit aussi il n'y aura pas de guerre si moi je suis élu. Et donc, Kamala Harris essaie juste d'arriver à la Maison-Blanche avant de trop s'exprimer sur le sujet. Donc, on ne sait pas
exactement. Donc, elle est prudente.
Ah oui, elle est très, très prudente.
Surtout, il y a un certain jeu électoral pour le coup, parce qu'il y a ce qu'on appelle le vote juif, parce qu'on peut en parler aux États-Unis, pour le coup, sans problème. On ne peut pas en parler en France. Mais il y a quelque chose de l'ordre du vote musulman ou du vote des sympathisants des gens, ou des gens qui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, n'en peuvent plus du deux poids, deux mesures, d'une certaine manière.
Oui.
C'est ça aussi ce qui est en train de se passer. C'est des gens qui disent, mais bon, là, c'est pas juste, au sens de, on ne traite pas les actes de la même manière en fonction des gens qui les commettent,
quelle que soit l'origine d'ailleurs, quelle que soit la cause, mais les effets.
De la fuite à l'avant de Poutine, c'est la fuite à l'avant de Netanyahou. Il sait très bien que s'il arrête, il va se retrouver de toute façon devant un tribunal.
Alors,
et il va être jugé et peut-être emprisonné.
Oui. Ça, c'est visiblement une zone d'ombre, là aussi, quand on lit les journaux français, qui est cette histoire de... Ça pèse combien, ça? Ça pèse combien les gens qui ne se retrouvent pas dans ce genre de choses par rapport à l'impact que ça commence à avoir un peu partout dans le monde, y compris les gens qui sont aujourd'hui à Moscou invités par Poutine, les BRICS, sont des gens aussi qui sont là parce qu'il se passe des choses au Moyen-Orient. Enfin, je veux dire, le Brésil, des choses comme ça. Ils ne se retrouvent pas non plus du côté, entre guillemets, des démocraties occidentales. Parce qu'aujourd'hui, il y a une démonstration du deux poids, deux mesures qui se fait à l'échelle géopolitique. Quoi. Et on a l'impression que ça peut avoir aussi un impact sur les élections américaines.
Oui. Mais bon, si on revient aux chrétiens purs et durs aux États-Unis, alors ils ont poussé, ils ont applaudi quand Trump était président, quand il a c'est changer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Donc ça fait partie de leur façon de penser. Donc ce n'est pas... Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas le vote des Juifs. Il y a très peu de Juifs aux États-Unis, en fait. Mais ces chrétiens purs et durs, là, ça, ils sont tout à fait pour... Netanyahou.
Ils en rajoutent même.
Et ils en rajoutent, beaucoup. Donc, Kamala Harris, dans cette élection, donc dans certains États comme le Michigan, où il y a une population palestinienne, d'origine palestine, musulmane, etc., qui font du bruit parce que, bon, ils ont raison, hein, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Au Moyen-Orient. Donc, c'est vrai qu'elle ne parle pas trop de ce qu'elle ferait, parce que dans deux semaines, on verra, quoi. Mais si Trump gagne, deux États, Israël-Palestine, ça ne se verra jamais le jour. Il se soucie pas trop. Lui, quand il était président, il a mis, il a interdit l'entrée sur le sol américain de tout musulman. Donc, il n'est pas très sympathique pour ces gens-là.
Effectivement, il n'est pas très sympathisant.
C'est l'euphémisme. L'heure avance très vite. Je vous propose de boucler notre panorama en parlant d'environnement. Alors, au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Les USA continuent à forer tous azimuts, hein, parce que ça, la recherche du pétrole, je crois que vous avez ça dans le sang, si je puis dire. L'éolien en mer, ça devient très cher, c'est ruineux aujourd'hui. Et la voiture électrique, sans jeu de mots, ça ne vous branche pas beaucoup. Hein. Surtout maintenant, avec 60-70% de taxes en plus sur celles qui arrivent de Chine. Donc qu'est-ce que les Américains font pour l'environnement qui est quand même pour l'Homo sapiens un dossier existentiel?
Oui.
Suzette, qui a l'air très, très motivée par cette question, très très motivée.
Au fil de ça.
Donc effectivement, pour moi, c'est le point clé. Parce que nous sommes arrivés à un moment où on est presque au mur.
Sinon, on est donc, ouais.
Peut-être... voilà. C'est ces moments charnières. Et moi, je pense qu'il y a à peu près 4 heures. Donc, il y a la démocratie américaine et le rôle des États-Unis dans le monde. Mais avant, moi, j'aurais placé l'environnement. Donc, je crois que je peux présenter ça comme deux extrêmes. Nous avons Trump qui donc a invité les grandes sociétés pétrolières pour venir to wine and dine, c'est-à-dire de dîner donc sur sa propriété. Et lui, il a dit je vous donne donc carte blanche si chacun d'entre vous me donne, donc je ne sais pas le montant.
Un milliard.
Mais je crois que c'est bien un milliard.
C'est simple, en fait, nos comptes.
Donc,
c'est du cynisme à l'état pur, là.
Et donc, vous pouvez rentrer dans les parcs. Donc nos parcs, comme Yosemite, Yellowstone, et vous pouvez faire ce que vous voulez. De l'autre côté, donc je ne veux pas dire que c'est son en fait sujet préféré, mais nous avons quelqu'un qui veut préserver nos États, qui veut en fait donc c'est l'ONU qui est en train de promouvoir que chaque pays place 30% de leurs terres en protection totale, et elle est dans ce mouvement. C'est vrai que on veut donc on est pour, donc pour le pétrole, etc., mais qu'on a une partie de la population qui pour eux c'est quelque chose, c'est l'identité nationale, et ça on n'en parle pas beaucoup en dehors des États-Unis, mais vous pouvez pas croire le nombre de personnes qui ils sont prêts à donner leur vie pour protéger, en fait, je prends des parcs donc en exemple, donc ça contraste beaucoup avec Los Angeles, etc., je comprends bien, mais de céder en fait le pouvoir à Trump, c'est la garantie qu'on va tout perdre. Et que donc le crise de climat ne va être donc il fera rien pour donc essayer de temporer la situation.
Il va baisser les aides à la transition et ensuite il va lâcher les chiens, si je puis dire. Il va laisser les pétroliers continuer.
Exactement. Et donc on aura les voitures, pas nécessairement électriques, parce que le pétrole, il faut l'utiliser à faire quelque chose. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que l'idée donc de mettre donc des tarifs sur les voitures électriques n'est pas en fait à nous mettre dans une situation où il faut les voitures donc à pétrole, parce qu'il va y avoir du pétrole sur le marché, il faut l'utiliser pour quelque chose.
Mais on n'en parle jamais, mais vous avez un candidat écologiste.
Oui, donc...
On ne parle jamais que les deux grands candidats, mais il y a un candidat écologiste à la présidentielle.
Il est très confidentiel, malheureusement.
Voilà, mais ça existe.
Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, donc je suis obligé de vous poser la question que tu devines, Jean-François. Est-ce que vous avez un pronostic ? Bon, ok, vous êtes des adhérents du Parti démocrate, donc on sait où va aller votre vote et votre cœur. Est-ce que vous êtes confiant ?
Moi, je suis optimiste.
Suzette aussi.
Moi, je crois que ça va être très juste, mais on n'a pas assez. Les sondages ne nous permettent pas vraiment de se prononcer. Donc, je balance entre espoir et angoisse.
La dernière fois, ce n'était pas si juste que ça avec Joe Biden. On a vu ce qui s'était passé au niveau de l'assaut du Capitole. Donc, j'imagine que là, si ça se joue à quelques milliers de voix, il peut y avoir des débordements extrêmement importants sous l'impulsion de Trump. C'est quand même extrêmement dangereux.
Oui, c'est possible. Oui.
Ouais.
C'est parce que il y a beaucoup de ces partisans, ces supporteurs qui sont armés aux dents.
Ils sont pas prêts à admettre.
Oui, mais bon, il faut pas se fier trop au sondage, parce que il faut voir qui est sollicité dans ces sondages. Et donc c'est pas les gens qui viennent de s'inscrire aux urnes depuis 6 mois ou 8 mois. Donc, ce n'est pas les jeunes qui sont interpellés. Et puis, on m'a expliqué hier que si on regarde aux États-Unis, les recherches sur Google, on voit qu'il y a plein de personnes, visiblement des femmes, qui veulent savoir, qui demandent à Google si c'est possible de voter sans que la mari sache pour qui elle vote.
Ah oui, on en est là. On en est là.
Bon. Donc en ce moment, on voit bien que Kamala Harris, elle fait campagne avec Liz Cheney, n'est-ce pas, conservatrice, avérée, mais du Montana, n'est-ce pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de républicains qui ne soutiennent pas vraiment la cause démocrate, mais qui voient le danger de Trump. Et donc leur campagne, les deux, c'est de convaincre les femmes républicaines que oui, vous pouvez voter démocrate et quand même bien dormir.
Bon, bah écoutez, sur cette parole optimiste, on va se quitter, on va être très attentif à ce qui se passe, puis peut-être qu'on se retrouvera après les élections, il y aura peut-être des choses à dire à ce moment-là, et à commenter, donc vous serez les bienvenus. Merci Suzette, merci Scott, ben, je crois qu'on a à peu près tous la même vision de ce qu'on aimerait, donc on va
croiser... La même vision de ce concret.
De ce concret, oui, voilà. Eh bien, on croise les doigts, et puis bon vent à Kamala Harris, c'est ça,
voilà. Et merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt, certainement, pour faire la synthèse de ce qui s'est passé. C'était Ça va mieux, une émission de Jean-François Mignard et de Jacques Lavergne. Grégor Nachez était au bouton, on le remercie. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée à toutes et à tous.